plus sous l'action de la grâce, vous avez certainement l'évidence que notre vie se doit être une union à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, qui nous a créés, qui nous a rachetés, notre Seigneur nous a rachetés. Et cette évidence, on pourrait dire, vous envahit certainement, parce que c'est l'action du Saint-Esprit qui aboutit à cela. Et dans une retraite où le silence de notre vie, l'absence de grandes tentations, la vie, la pratique de la vie chrétienne dans les meilleures conditions, eh bien, nous dégage de tout cet obscurcissement que nous connaissons par ailleurs dans le reste de notre vie et qui nous fait oublier l'essentiel de notre vie, le vrai but de notre vie, à savoir que nous devons être complètement à Dieu parce que nous avons été créés par lui et créés pour lui. L'essence de la perfection, l'essence de la vie chrétienne consiste donc en ce que nous soyons complètement unis à Dieu. Et nous avons reçu un cadeau extraordinaire, supplémentaire, à part la vie, à part le salut. C'est un moyen d'être unis tout spécialement à notre Seigneur Jésus-Christ, ici-bas. C'est le sacrement de l'Eucharistie. Et je vais vous parler cet après-midi de la Sainte Messe et de la Communion. Notre Seigneur l'a dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Nous avons donc une affirmation claire que le sacrement de l'Eucharistie est le meilleur moyen de l'union à Dieu. Il demeure en moi et je demeure en lui. Souvenez-vous de cet épisode de Zachée. Zachée est un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Et il entend parler de notre Seigneur et il est intéressé, il est attiré, c'est l'action de la grâce tout simplement, pour connaître notre Seigneur, et lorsque celui-ci passe près de chez lui, il veut absolument le voir. Et alors, comme il est petit, nous dit l'Évangile, il monte sur un sycomore, et arrive la foule qui entoure notre Seigneur constamment dès qu'il prêche publiquement. Et notre Seigneur l'appelle, il n'a même pas besoin de se faire connaître, c'est notre Seigneur qui l'appelle. Il lui demande de descendre. Aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. Cette demeure, le fait de rester dans une âme, voilà ce que notre Seigneur désire au plus haut point. C'est rester en nous. C'est cette union qui est le but de notre vie. Or, pour communier, vous le savez, c'est dans le cadre de ce don incroyable que notre Seigneur nous a fait avant de souffrir, c'est le sacrement de l'Eucharistie et plus spécialement la Sainte Messe, l'institution de la Sainte Messe, du sacrifice de la Messe. Nous avons là le cœur de notre religion, nous le savons bien, puisque notre foi nous indique que c'est la Messe et le sacrifice renouvelé du sacrifice de la croix de façon sacramentelle. Alors il faut expliquer un petit peu ces notions qui, nous les connaissons bien généralement, mais c'est malheureusement, tout en les connaissant bien, la nouvelle messe nous montre qu'on peut se tromper sur ces réalités. Alors qu'est-ce qu'un sacrement, d'une façon générale, d'abord ? Sacrement, on l'a appris au catéchisme, c'est un signe sensible qui donne la grâce, qui donne ce qu'il signifie. Donc un signe sensible, c'est quelque chose que l'on perçoit par les sens, qui dit signe, dit un message qui vient à notre connaissance, mais qui en renvoie à une autre, à un signe, c'est nous avons devant les yeux quelque chose qui renvoie à une autre réalité. C'est le propre d'un signe. Alors on a des signes qui sont naturels, on dit volontiers il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, ben, ça veut dire que la fumée est signe de feu. Même si on ne voit pas le feu, on sait qu'il y a un feu, parce qu'on voit une fumée. Donc la fumée est signe de feu. Ça, ce sont des signes naturels. Si vous voyez une empreinte de chevreuil dans la forêt, vous dites qu'il y a un chevreuil qui est passé par là. C'est un signe, une trace naturelle. Et puis, il y a les signes qu'on appelle conventionnels, c'est-à-dire c'est une convention. L'homme a choisi que le feu rouge signifierait qu'il faut s'arrêter et le feu vert qu'on peut démarrer. Donc ce sont des signes purement conventionnels, mais dès lors qu'ils sont connus, ils impliquent un agir en fonction de ce signe. Alors le sacrement est un signe, mais c'est un signe spécial, puisqu'il réalise ce qu'il signifie. Donc il va non seulement dire quelque chose, mais réaliser ce qu'il signifie. Prenons la différence entre un... Je reprends sur le code de la route, entre un panneau du code de la route qui nous indique la présence à 50 mètres ou à 150 mètres d'une barrière électrique, d'une barrière de chemin de fer ou du passage d'animaux sauvages. Vous savez, c'est ce cerf qui bondit, je l'aime bien celui-là. Si vous avez ce signe sur la route, vous vous dites, méfiance, il peut y avoir des animaux sauvages qui vont traverser la route. Mais ça ne réalise pas ce que cela signifie. Vous allez passer un grand nombre de fois sur cette route et ne jamais voir de cerf bondissant, et puis peut-être un jour c'est un sanglier. D'autre part, si vous prenez le panneau et que vous le mettez dans votre maison, vous n'aurez jamais, surtout si vous êtes en ville, de cerf bondissant 150 mètres plus loin. Donc on voit bien que le signe qui réalise, c'est tout autre chose que les signes que nous avons dans notre vie quotidienne. Donc un sacrement, c'est quelque chose d'à part. Il y a bien un point commun, c'est dans le signe, effectivement, mais le signe qui réalise, c'est quelque chose qui ne peut venir que de Dieu. Puisque comment quelque chose qui dit peut réaliser en même temps? Comment un objet, comment une matière, de l'eau pour le baptême, peut-elle réaliser ce qu'elle signifie, à savoir une ablution de quoi? D'un péché, du péché originel. On voit bien qu'il y a une disproportion complète entre la capacité de cette matière à... La matière peut laver, effectivement l'eau lave, mais ne peut pas laver une âme, ne peut pas laver un péché. Donc les sacrements, on le voit bien, sont d'institution divine, et leur efficacité vient de Dieu. Donc le sacrement est un signe sensible, qui réalise ce qu'il signifie, et il signifie toujours quelque chose de surnaturel. L'ablution du péché originel dans le baptême, la destruction des péchés regrettés dans l'absolution. Vous savez que dans le sacrement de pénitence, il y a toujours une matière, dans tous les sacrements, il y a une matière et une forme. La matière dans le sacrement de pénitence, ce sont les péchés regrettés, confessés, mais regrettés. Et la forme, c'est l'absolution. Dans l'Eucharistie, nous y voilà, nous avons une matière qui est le pain et le vin, qui n'est plus le pain et le vin dès lors qu'il y a le sacrement, puisque c'est désormais le corps et le sang de notre Seigneur, après les paroles de consécratoire, qui sont la forme de ce sacrement. Alors, nous voyons donc que ces moyens qui nous ont été donnés par notre Seigneur lui-même, institués par lui, pour donner sa grâce, parce que ces sacrements donnent la grâce. Ils réalisent ce qu'ils signifient et ils donnent la grâce, tous. Eh bien, ces moyens sont des moyens particulièrement importants pour notre vie d'union à Dieu, puisque nous avons justement un moyen qui nous est donné par Dieu pour qu'il se donne à nous, et tout spécialement dans l'Eucharistie. Alors, je vais vite sur les sacrements, mais c'était pour rappeler un petit peu ces notions et comprendre que la messe et la réalisation du sacrement de l'Eucharistie. Et ce sacrement de l'Eucharistie, on pourrait dire qu'il a deux aspects. Il a cet aspect de sacrifice dans lequel il se réalise, c'est-à-dire que nous avons... Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? C'est l'immolation d'une victime offerte totalement à Dieu. C'est ça un sacrifice. Alors dans l'Ancien Testament, vous aviez des sacrifices d'animaux qui étaient des images pour nous préparer à ce sacrifice unique et définitif de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous aviez aussi d'autres formes d'offrir, ce n'était pas forcément des animaux, ça pouvait être des gâteaux, des choses qui étaient offertes dans le temple. Mais le vrai sacrifice, le plus parfait, c'était celui des animaux, et des animaux qui étaient entièrement offerts, dont le sang était reversé, etc. Dans la Sainte Messe, le sacrifice est réel. Pourquoi ? Parce qu'il y a une immolation. Je reviendrai après là-dessus. Il y a un prêtre qui offre une victime. Donc pour avoir un sacrifice, il faut ces trois éléments. Le prêtre, la victime et l'immolation de la victime. Alors nous le savons bien, notre Seigneur Jésus-Christ s'est offert une seule fois. C'était le Vendredi Saint. Alors comment se fait-il que la messe soit un sacrifice, un vrai sacrifice, où il y a un prêtre, une victime et une immolation, et qu'on ne peut pas imaginer que Jésus soit à chaque messe de chaque prêtre, dans le temps et dans les lieux, à nouveau immolé, puisque notre Seigneur est au ciel, ressuscité, il ne souffre pas. Alors, c'est tout cela le mystère de l'Eucharistie, et c'est tout cela le mystère de la Sainte Messe. Mais il faut bien connaître cela pour savoir ce qu'est la messe et pour pouvoir ne pas se laisser piéger par les erreurs qui sont apparues de fait dans la nouvelle messe. Alors, comment cela se fait-il ? Est-ce qu'il y a plusieurs sacrifices ? Puisqu'on dit que c'est un vrai sacrifice, auquel cas le sacrifice du Vendredi Saint n'aurait pas suffi. Ou bien il n'y en a qu'un et celui de la messe n'en est pas un. Alors comment arriver à concilier les deux ? Eh bien, c'est tout simplement, justement, la réponse est au niveau du sacrement. Le sacrement, le sacrifice de la messe est sacramentel. C'est un vrai sacrement, c'est un vrai sacrifice, pardon, mais c'est un sacrifice dont le mode est différent de l'unique vrai sacrifice sanglant du Vendredi Saint. C'est un sacrifice dont le mode est non sanglant, il est sacramentel, c'est-à-dire il est réel dans l'aspect de signe. Alors comment on le voit dans la messe ? Eh bien on le voit dans la consécration des deux espèces. La consécration du pain, qui n'est plus du pain une fois que les paroles ont été prononcées. La consécration du vin, qui n'est plus le vin une fois que les paroles ont été prononcées, montre qu'il y a le corps de notre Seigneur d'un côté, le sang de notre Seigneur d'un autre côté, et ce sont des espèces qu'on en dit donc sacramentelles, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment des signes sensibles, nous les voyons, ces signes. Nous ne voyons pas le corps et le sang de notre Seigneur, puisque les accidents, comme on dit, sont toujours ceux du pain et du vin. Mais nous voyons bien, nous avons des signes devant nous, que le corps est là, le sang est à côté, et qu'est-ce que cela sinon un sacrifice ? Qu'est-ce que cela sinon une immolation ? Puisque lorsque le corps de quelqu'un et le sang sont séparés, bien il y a mort, il y a mise à mort. Donc il y a véritablement immolation, immolation réelle et qui rend notre Seigneur Jésus-Christ présent. Attention, ça n'est pas simplement un sacrifice de façon sacramentelle, signifiante et qui nous rappellerait, etc. Non, cela aboutit à la présence réelle du corps et du sang de notre Seigneur et en même temps cela réalise, cela fait, je prends le verbe le plus vague de notre langue, cela fait un sacrifice, une immolation véritable. Donc c'est vraiment un sacrifice, et en même temps, cela représente l'unique sacrifice du Vendredi Saint. Et là, on tient les deux bouts, puisque on ne part pas sur une multiplication de sacrifices de notre Seigneur, ce qui voudrait dire qu'à chaque fois, il serait immolé, donc il ressouffrirait. Non, ce sont les espèces séparées, distinctes, qui constitue le sacrifice, mais en même temps nous donne vraiment le corps de Jésus, mais non pas le corps souffrant, le corps tel qu'il est actuellement, mais de façon sacramentelle, mais réelle, tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire un corps ressuscité, un corps glorieux, que nous recevons lorsque nous communions. Alors on le voit, la messe est avant tout ce sacrifice. On définit la messe par ce mot, sacrifice. La communion maintenant, la communion qui nous donne Jésus, qui nous donne Jésus vivant, et qui nous donne Jésus tout entier, dans son corps, dans son sang, dans sa divinité, avec son âme. Jésus se donne en nourriture à nous par la communion. Mais n'oublions jamais que si nous communions, nous communions à la victime d'un sacrifice. Et oui, cette communion est communion à une hostie, et cette hostie, qu'est-ce que ça veut dire ? Victime. Le mot hostie veut dire victime. Et il serait faux de séparer, de distinguer la communion du sacrifice. Communier à notre Seigneur Jésus-Christ à la messe, c'est communier à Jésus-Christ, offert en victime, à Jésus-Christ victime, on peut dire, à Jésus hostie. Hostie en sacrifice au Père, offert au Père du ciel, en réparation de nos péchés, mais ne l'oublions pas, n'inversons pas, d'abord aussi en justice pour Dieu, le Père, en acte de réparation d'une injustice faite contre Dieu le Père, et donc elle répare cette injustice faite contre Dieu le Père, et en conséquence, elle nous apporte la rédemption, c'est-à-dire le rachat, le paiement, le pardon de nos péchés. Voilà très rapidement résumé le Saint-Sacrifice de la messe. J'y reviendrai un petit peu plus en détail pour quand même enfoncer le clou. Mais il faut bien comprendre cela pour ne pas se laisser piéger par les nouveautés qui ont eu lieu en ce siècle dernier, 20e siècle. La nouvelle conception de la messe a fait beaucoup plus la part au repas, donc à la communion. Donc ce n'est pas qu'il n'y a pas de communion dans la messe, bien entendu, mais il y a un glissement. Il y a deux glissements. Il y a le premier, il est là, c'est d'avoir insisté sur l'aspect repas, mais un repas de quoi ? Ben, un repas plutôt fraternel, donc plutôt horizontal, avec notre Seigneur présent, dont l'aspect de la présence, d'ailleurs, mériterait d'être étudié davantage. Et puis le deuxième aspect, c'est la disparition du sacrifice. C'est-à-dire que puisqu'on a mis en avant le repas, on est dans quelque chose qui est, on pourrait dire, convivial, au sens étymologique, donc du repas. On a des convives et on est ensemble et on manifeste ensemble notre amour les uns des autres. Ça n'est pas premièrement cela. C'est avant tout un sacrifice qui, en conséquence, nous unit par la communion à cet état de victime et donc au fruit de la rédemption que notre Seigneur Jésus-Christ a mérité sur la croix par sa mort. Il faut bien tenir cela, sinon on ne comprend pas le sens, la différence, on pourrait dire, entre l'ancienne et la nouvelle messe, et on ne voit pas pourquoi il y a une querelle, pourquoi il y a un combat, pourquoi il y a des temps de différence. L'autre aspect essentiel, c'est le rôle du prêtre. Si on oublie qu'il y a un sacrifice, le prêtre est inutile. Ou alors, il est simple, organisateur du repas. Et malheureusement, c'est la conception que Luther avait de la messe. C'est-à-dire que la messe, pour lui, n'était pas un sacrifice. Pourquoi ? Il partait d'une proposition qui est juste, en disant « Il n'y a eu qu'un seul sacrifice, celui de notre Seigneur, le Vendredi Saint. » C'est vrai. Mais en partant de cette proposition vraie, il aboutissait au fait qu'il niait la vérité du sacrement de la messe, de l'Eucharistie, et il aboutissait au fait que la messe ne pouvait être qu'une espèce de reproduction imagée, comme on fait une pièce de théâtre pour reproduire la vie d'un saint, ou on reconstitue de façon dramatique une histoire, et on a l'impression de la faire revivre par des acteurs, etc. Pour lui, la messe n'était pas plus qu'une reproduction au même titre qu'on imite, qu'on se souvient de ce qui s'est passé et on essaye de le reproduire pour s'en souvenir, justement. Pour s'en souvenir, et le fait de s'en souvenir nous fera augmenter notre foi en Jésus-Christ qui est mort le vendredi saint. Vous voyez à peu près la position de Luther. Et nous en sommes arrivés là, avec la nouvelle messe, avec cette évacuation du sacrifice sacramentel. Il y a eu élimination, en tout cas large atténuation, de cet aspect sacrificiel au profit d'un repas communautaire, un repas de souvenir, comme on se souvient dans certaines fêtes civiles ou familiales, d'un événement précis qui nous a unis déjà et qui nous réunit à nouveau dans cette fête, dans ce repas que l'on organise. Alors attention, hein, attention, la question est suffisamment importante pour mériter d'être étudiée en détail. Alors je vous conseille, je vais moi-même m'en servir très largement parce que tout y est, de lire l'encyclique de Pie XII qui s'appelle Mediator Dei et Hominum, donc médiateur de Dieu. Vous savez qu'on donne toujours en latin les noms des encycliques parce que ça permet de les classer comme cela. Donc Pie XII a écrit cette encyclique en 1947 et elle est très complète sur la liturgie et sur le sacrifice de la messe. Donc 1947, c'est pas le déluge, et on a la preuve que la doctrine catholique était très clairement rappelée à la fin de la guerre, au lendemain de la guerre. Donc je vous la conseille, elle est source de méditation très, très facilement, et en même temps, elle a une doctrine très sûre, très précise, avec des références, si vous voulez approfondir, vous pouvez vous y référer. Je ne vais pas, bien sûr, vous la lire, mais je vais reprendre quelques éléments qui sont importants et que j'ai évoqués un peu rapidement pour la compréhension de la messe. Pie XII rappelle que c'est le véritable renouvellement du sacrifice de la croix. La messe, le sacrifice de l'autel, n'est donc, je cite, « n'est donc pas une pure et simple commémoration des souffrances et de la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas une simple commémoration, on ne fait pas que se souvenir de la passion de notre Seigneur, mais un vrai sacrifice au sens propre, dans lequel, par une immolation non sanglante, le souverain prêtre fait ce qu'il a fait sur la croix en s'offrant lui-même au Père éternel comme une hostie très agréable. » Et ce qui est important de voir, c'est que le prêtre, dans ce sacrifice de la messe, est identique. Quel est ce prêtre? Ce n'est pas premièrement le prêtre que vous voyez célébrer la messe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui était le vrai prêtre sur le calvaire. Vous savez très bien que notre Seigneur Jésus-Christ s'est offert volontairement en sacrifice. Il l'a montré très facilement lorsque, au moment de son arrestation, il l'avait montré bien avant, mais enfin, de façon ultime, au moment de son arrestation, c'est dans l'évangile Saint Jean, nous avons ce détail qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Et aussitôt, tous les hommes sont plaqués à terre. On se demande par quelle force? Ben, c'est la force de Jésus-Christ, qui montre que s'il l'arrête juste après, quelques instants après, même s'il le fait deux fois, pour bien montrer qu'il est capable de le faire autant de fois qu'il le veut, s'il le veut, ils ne l'arrêteront pas, même s'ils sont 10, 50 ou 100, ils ne l'arrêteront pas. Eh bien, notre Seigneur montre qu'il est tout-puissant et qu'il se donne. Il se donne en oblation, en immolation à ce sacrifice qui va être le prolongement de cette arrestation. Eh bien, le prêtre, c'est donc notre Seigneur Jésus-Christ. La victime, bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette victime, donc, est identique entre le Vendredi Saint et chaque messe célébrée quotidiennement. Vous avez une seule et même victime. Et les fins de ces sacrifices sont les mêmes. Alors, les théologiens résument en quatre fins qu'il est bon de connaître. Ça peut nous rappeler surtout le sens de la vie religieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, comme nous devons nous unir à la vie de Jésus-Christ, eh bien nous acquérons en Jésus-Christ ces mêmes quatre fins de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous les donne. C'est la première, c'est la fin qui a pour but de glorifier le Père Céleste. C'est une fin de glorification. Notre Seigneur est le vrai Fils de Dieu et il honore son Père. Et voilà la façon la plus intense, la plus parfaite pour honorer son Père, c'est de s'offrir en sacrifice. La deuxième, c'est de rendre grâce, de rendre les grâces que Dieu a données, dans son humanité, bien sûr, là, uniquement. Hein. Notre Seigneur rend à Dieu, à son Père, ce qu'il a reçu. Et il le dit assez fréquemment dans l'Évangile, « J'ai tout reçu de mon Père, tout ce que je fais, je l'ai vu, je l'ai connu, je l'ai reçu de mon Père. » Eh bien, l'expression « rendre grâce » est très belle, parce qu'elle nous fait restituer, mais non pas restituer parce qu'on n'en voudrait plus, c'est restituer pour montrer que l'on veut redonner à la source, retourner à la source de laquelle nous avons reçu. La troisième fin, c'est une fin d'expiation. Il y a véritablement dans toute la vie de notre Seigneur, et bien sûr tout spécialement dans son sacrifice, une fin de propitiation, de réconciliation du genre humain. Oui, le genre humain était perdu, et bien notre Seigneur vient à notre place s'offrir en victime. Il y a donc l'idée de rédemption. Rédemption, ça veut dire rachat. Parce que nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Et enfin, il y a une dernière fin qui est une fin de demande, de prière. Oui, nous sommes toujours dans le besoin. Et notre Seigneur nous montre, par le sacrifice, que c'est la plus belle des demandes qui soient faites au Père du ciel. Donc, dans tout sacrifice et dans notre vie, on pourrait résumer notre vie par ces quatre fins. Une fin de glorification, de louange, une fin d'action de grâce, parce que nous devons tout à Dieu, une fin d'expiation, parce qu'effectivement nous sommes pécheurs, et une fin de prière, parce que nous avons sans cesse besoin de recevoir ces fruits que nous avons, dont nous avons la connaissance. Voilà le plus grand des dons que notre Seigneur nous a fait, c'est bien la Sainte Messe. Et cette Sainte Messe qui nous applique, et voilà, on pourrait dire le dernier point essentiel, qui nous applique les fruits de ce sacrifice de la croix. Parce qu'il faut bien comprendre que le Vendredi Saint, notre Seigneur a tout mérité. À sa mort, sa vie de mérite est close. Et il ne nous a, on pourrait dire, rien donné encore. Il a tout mérité, mais il n'a rien donné. N'oublions pas, comme pour l'incarnation, je vous en avais parlé l'autre jour, ça n'est pas parce que notre Seigneur, le Verbe s'est fait chair, que toute âme, tout être humain, parce qu'il est humain et que le Verbe s'est fait chair et donc a sanctifié une humanité, toute humanité serait sanctifiée. Non. Pour que chaque âme soit sanctifiée, il faut nécessairement qu'elle reçoive application de ses grâces, de ses mérites et de cette sanctification. Eh bien, cela se fait par la communion, tout spécialement. Pas uniquement, mais tout spécialement et surabondamment dans la communion. Le baptême nous donne des grâces, tous les sacrements nous donnent des grâces, donc il y a bien des fruits du mystère de la vie et surtout de la rédemption de notre Seigneur qui se donnent à travers ces sacrements, mais le sacrement de l'Eucharistie nous donne le plus pleinement, c'est la source numéro un qui nous donne non seulement des grâces de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ lui-même. Puisque en communiant à la messe, nous recevons non seulement la grâce de Dieu, mais l'auteur de la grâce. Et ça doit nous mettre dans un état de, encore une fois, d'ébahissement, de stupéfaction, parce que qu'est-ce qui a pu pousser notre Seigneur, enfin Dieu, à se donner à ce point? Nous qui, nous l'oublions pas, sommes souvent ses ennemis. Alors justement, notre Seigneur ne veut pas se donner sous une forme qui nous serait pénible, bien entendu. Lisez en parallèle de cette méditation sur la messe et la communion le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean qui est l'annonce de l'Eucharistie. Alors je ne peux pas le lire parce qu'il est long, mais c'est l'annonce à ses apôtres en disant « Je suis le vrai pain de vie ». Vous avez eu, dans l'ancien temps, c'était la manne, tout cela c'était rien à côté de ce don que je vais vous faire de mon propre corps, mon propre sang. Et je suis la vie, je suis ce... Je vais vous en dire, extraits tellement beau. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici le pain descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour le salut du monde. Alors, relisez entièrement le chapitre, mais c'est justement, notre Seigneur n'a pas voulu se donner de façon pénible ou qui nous aurait fait peur, comme certains disciples ont fui notre Seigneur en disant, mais c'est vraiment, il a tellement insisté qu'ils ont compris que c'était sa chair qu'il allait leur donner. Mais ils n'ont pas compris que c'était sous forme sacramentelle, réelle, mais sacramentelle. Donc le signe, bien sûr, de nourriture, eh bien, nous permet de mieux recevoir notre Seigneur sans avoir une répulsion, bien sûr, à recevoir la chair visiblement présente de notre Seigneur. Voilà ce qui nous est... Nous sommes invités à recevoir la vie de Dieu. La vie de Dieu dans le sacrement de l'Eucharistie. Et puisque nous sommes sur terre pour gagner cette vie de Dieu, mais comprenons bien que nous avons le devoir de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pensons pas pouvoir nous dispenser de cette chair et de ce sang de notre Seigneur. Ça n'est pas une option pour ceux qui s'en trouvent dignes. Ça n'est pas une question d'ailleurs de dignité. Vous le savez, le mouvement janséniste qui est cette barrière contre l'Eucharistie. Il fallait être digne, absolument digne, pour s'approcher de la Sainte Table de la Communion. Bien sûr qu'il faut être digne, bien sûr qu'il faut être en état de grâce. Je ne vais pas dire le contraire. Et saint Paul le rappelle très clairement en disant qu'il faut s'examiner soi-même avant de s'approcher de la Sainte Table pour voir, parce que sinon on boit et on mange sa propre condamnation. Mais dès lors qu'on sait qu'on n'a pas fait de péché mortel, dès lors qu'on s'est confessé et qu'on n'a pas conscience d'un péché mortel, nous devons nous approcher de notre Seigneur, puisque c'est lui qui nous l'a demandé et c'est lui qui veut être notre nourriture. Et le jansénisme et tous ses succès d'années ont donc fait de l'Eucharistie une récompense. Une récompense venant couronner des grands efforts de sainteté et, bon an, mal an, justement, une fois par an, c'est déjà bien, on pouvait s'approcher, si on avait bien fait beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices, on pouvait s'approcher de la Sainte Table. Ce n'est pas une pratique chrétienne. On le voit dans les textes de la Sainte Écriture, les premiers chrétiens, c'était quotidiennement. La communion quotidienne n'est pas une invention tardive. C'est dès les premiers apôtres, dès les premiers chrétiens. C'est dans les Saintes Écritures. Donc, n'oublions pas que c'est un remède, que c'est la réception d'une nourriture. Or, toute nourriture, regardez la manne qui en était l'image. Les Hébreux, il n'y en avait pas qui se disaient « bon, ben aujourd'hui, j'en prends pas ». Ils en prenaient, alors ils avaient des limites, il fallait en prendre uniquement ceux dont ils avaient besoin. Mais en même temps, ils en prenaient tous, chacun en proportion de ses besoins, mais ils en prenaient tous. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient besoin de se nourrir. Et notre Seigneur, s'il nous a donné, pour nous faire comprendre, parce qu'on est dur à comprendre les choses, c'est évident, il a voulu nous montrer cette analogie entre la nourriture du corps et la nourriture de l'âme. Mais il nous dit, votre âme a autant besoin de se nourrir que votre corps. Mais bien sûr, ce n'est pas de la même nourriture. Pour votre corps, ce sera votre nourriture quotidienne, pain, des choses comme ça. Et pour votre âme, c'est moi, dit notre Seigneur. Mais comment on va pas imaginer qu'on se prive, alors sauf de façon pénitentielle, c'est possible, momentanément, uniquement. On va pas se priver de nourriture totalement pour notre corps, parce qu'on sait très bien qu'il va crier famine et qu'on va donc vite retrouver le bon sens. Et que ce bon sens que nous avons pour notre corps, nous ne l'avons généralement pas beaucoup pour notre âme. Bien, notre Seigneur, dans ce chapitre 6 de saint Jean, nous rappelle cette nécessité. Je suis le pain de vie. Et si nous voulons cette vie pour notre âme, c'est une vie surnaturelle uniquement, eh bien, il faut recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien sûr, il faut l'être avec les dispositions, la dignité qui convient, c'est-à-dire l'état de grâce. Mais n'oublions pas que cette communion qui vous est souvent proposée, eh bien, doit être désirée, préparée, bien sûr. Elle doit être préparée. On ne va pas à la messe par accident. voyez. Et même, ça peut arriver. On dit, tiens, on passe devant une église, dans les grandes villes, ça peut arriver. Et on dit, bah, tiens, il y a une messe, ou bien là, s'il va y avoir la messe, j'y vais. Pourquoi pas? C'est pas, ça n'est pas du tout une faute. Mais préparons-nous à communier, si nous avons assez de temps, si la messe n'est pas commencée, bien, de se dire, ben voilà, je n'avais pas prévu d'assister à cette messe, mais je vais me préparer à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Si je suis à jeun, évidemment, pour pouvoir respecter le jeûne eucharistique. Mais ayons cette disposition de suivre cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, je veux demeurer en vous. Et pas simplement spirituellement, comme il y demeure, comme toute la Trinité, dès lors que nous sommes en état de grâce, mais substantiellement, c'est-à-dire être présent, on pourrait dire physiquement, même si sa substance n'apparaît pas sous ses aspects physiques tels qu'il est au ciel, mon cher Irnos, mais il y a véritablement sa présence. Pourquoi veut-il cette intimité? Eh bien parce qu'il nous aime, et quand on aime quelqu'un, on veut être le plus près possible de ce quelqu'un. Donc notre Seigneur, et puis il veut nous nourrir, c'est-à-dire qu'il veut nous montrer que c'est sa vie qui est notre vie. Et je reprends encore cette phrase de saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » C'est là le but de notre vie. Et puisque c'est le but de notre vie, j'ai commencé par là, ça doit être aussi, nous devons prendre les moyens d'atteindre ce but. Et donc la communion doit être pour nous le moyen par excellence de vivre unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors malheureusement, l'époque fait que beaucoup d'entre vous, certainement, sont privés de cette possibilité d'avoir une messe accessible. Alors on fait parfois de gros efforts le dimanche, et c'est très louable, mais en semaine, on ne peut pas multiplier ces efforts. Donc, que faire et comment réparer cela? Eh bien, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle la communion spirituelle. Alors, ça n'est pas, bien sûr, une communion sacramentelle, puisque nous ne recevons pas Jésus hostie, mais il y a de grandes grâces dans cette communion spirituelle qui consiste à s'unir véritablement, à s'unir au tous les sens du terme, je reviendrai un petit peu plus tout à l'heure, conclusion, s'unir au sacrifice de notre Seigneur qui est célébré quelque part, soit parce qu'on sait très bien qu'il y a une messe à tel endroit, à telle heure, donc on sait qu'on s'y unit au même moment, soit parce qu'on devine qu'un endroit du monde, si Dieu est donc, eh bien il y a probablement une messe qui est célébrée. Et s'unir de quelle façon? Eh bien avec les dispositions que nous aurions si nous étions à la messe. Les fruits seront inférieurs, certainement, probablement, disons, à ceux que nous aurions en recevant notre Seigneur. Mais ils ne sont pas nuls, loin de là. Et il faut, si possible, prendre cette habitude sainte, surtout quand on en est privé de la messe, hein, de communier spirituellement. Voilà encore un moyen de vivre de Jésus-Christ intimement. Et cette habitude vous fera désirer la vraie messe. C'est-à-dire que dès que vous pourrez, si vous êtes en vacances et qu'il y a une messe à côté de votre lieu de vacances, eh bien vous irez, parce que justement vous en aurez été privé. Il ne faut pas s'habituer à être privé de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Hostie. Et puisque vous êtes en vacances, eh bien, n'oubliez pas, si vous avez encore des vacances à prendre, eh bien de choisir vos lieux de vacances en fonction de la messe. Ça peut vous paraître sévère, mais c'est une conclusion nécessaire de notre vie de chrétien. Vous n'allez jamais choisir un lieu de vacances sans avoir vérifié qu'il y ait une grande surface ou une petite épicerie dans le coin. Soyons honnêtes. Eh bien, vous ne devez pas non plus choisir votre lieu de vacances sans avoir vérifié qu'il y ait, non pas une épicerie, mais une église avec la messe. C'est la même chose. Alors, quelques conclusions pratiques pour mieux vivre, mieux connaître et mieux vivre cette dévotion à la Sainte Eucharistie et surtout cette assistance à la messe. Il faut faire attention que, nous avons dit, j'ai parlé de façon un petit peu extérieure, en disant c'est notre Seigneur qui s'offre, c'est le sacrifice de Dieu avec ses quatre fins, etc. N'oublions pas que nous avons notre rôle dans ce sacrifice. Là aussi, il y a confusion. Je disais tout à l'heure, dans la nouvelle messe, on fait disparaître le rôle du prêtre qui n'est plus sacrificateur, mais qui est, on pourrait dire, président d'une assemblée. C'est dans la définition du paragraphe 7 du nouvel ordo. Mais il y a, en plus, on a mis à égalité le prêtre et les fidèles. Et ça aussi, c'est une erreur, puisque seul le prêtre immole la victime, sacramentellement, mais immole véritablement la victime. Que font les fidèles ? Qu'il soit présent, qu'il y en ait peu ou pas, ou beaucoup. Ça ne change rien au sacrifice. Le sacrifice est toujours offert strictement, enfin, l'immolation est accomplie strictement par le prêtre, qui agit, comme on dit en latin, in persona Christi, dans la personne du Christ, parce que le vrai prêtre, c'est le Christ. Mais, alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on a besoin d'être présent à la messe? Et est-ce qu'on ne peut pas se contenter de ce que je vous ai proposé, à savoir des communions spirituelles? Eh bien non. Vous devez vous associer dans l'oblation de la victime. L'oblation, c'est-à-dire l'offrande, le fait que notre Seigneur est offert en tant que chef de l'Église à laquelle nous appartenons. Mais plus que cela, ce serait trop facile de dire, bah oui, on offre Jésus, et puis c'est Jésus qui est offert. Non. Comme nous sommes unis à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est nous aussi qui nous offrons. Et c'est ça la disposition première que nous devons avoir à la messe. C'est de nous offrir en Jésus-Christ, per ipsum et cum ipso et in ipso. Le prêtre dit cela, vous le savez, à la conclusion du canon. Par lui, avec lui, en lui. Et la suite d'ailleurs, et cette prière à la Sainte Trinité, nous montre bien la finalité de louange, d'adoration, de réparation et de prière de la Sainte Messe. Eh bien, tout est résumé dans ce per ipsum, par lui, et cum ipso, avec lui, et in ipso, en lui. Vos dispositions à la Messe sont dans ces trois expressions-là. Et vous êtes... On pourrait dire tenu, c'est pas beau parce que ça donne une obligation, puis on va faire un rite sans le désirer. Vous êtes invité à cet état d'oblat, c'est-à-dire de victime qui s'offre, qui est offerte, en Jésus-Christ, bien sûr. Strictement, notre pauvre personne n'a aucune valeur, donc si elle est offerte en sacrifice, ça va pas faire grand-chose, et en plus, ça n'apportera rien à Dieu. Mais parce que nous sommes unis à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre volonté, notre liberté, notre amour s'inscrit dans celui de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, notre sacrifice, notre immolation, enfin notre oblation plus exactement, s'unit au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et prend la valeur de celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sacrifice qui nous est rendu accessible dans le temps, puisque c'est le sacrifice du Vendredi Saint. Et ce sacrifice du Vendredi Saint, c'est celui qui nous a apporté le salut, la rédemption, la possibilité d'aller au ciel, la possibilité d'être en état de grâce avant d'aller au ciel. Et donc, nous, en nous offrant en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, au sacrifice de la messe, nous nous retrouvons bénéficiaires de ces fruits du Vendredi Saint. Nous en avons l'application. Et c'est cela qui fait que nous nous sanctifions à la messe. Alors, comment mieux assister à la messe? Comment mieux profiter de nos messes? Il y a des personnes, parmi vous certainement, qui ont la chance, la grâce, de pouvoir avoir une messe très facilement. Et bien sûr, le danger, c'est de s'y habituer, d'y aller par routine. C'est un danger qui guette tout le monde. Eh bien, pour ces personnes, comme pour les autres qui n'ont pas cette grâce de pouvoir avoir une messe accessible, essayez de retenir quelques points. Il faut d'abord ne pas hésiter à mieux connaître la messe. Souvent, on y va, on en connaît, on sait si on arrive au milieu, parce qu'on est en retard, où on en est. Le prêtre est en train de parler, donc c'est le serment, et il m'a vu. Mais on sait exactement où on en est, mais on n'a pas une connaissance profonde, spirituelle de la messe, c'est-à-dire de l'organisation des prières Et finalement, on y va depuis notre enfance éventuellement, ou depuis peu, mais on ne cherche pas à connaître. Il faut chercher à mieux comprendre la messe, mieux la comprendre dans ses prières. Pourquoi ne pas méditer une prière de la messe pendant une messe? Elles sont très très belles, ces prières. Elles sont un condensé. Et si on n'arrive pas à les comprendre, eh bien on prend un livre qui nous explique les prières de la messe. C'est normal que vous ne compreniez pas à première lecture une prière, c'est logique. C'est des petits concentrés de théologie et vraiment de spiritualité souvent. Donc ça, il ne faut pas le craindre. On va voir sur un livre. Et on cherche justement à mieux connaître sa messe. On cherche également à être toujours mieux disposé à cette communion. Alors, on s'est confessé, donc on est en état de grâce, on ne voit pas de péché grave qui nous empêche d'aller communier, donc on se dit, bah, je vais à la messe et je vais communier, très bien. Mais est-ce qu'on n'a pas justement trop tendance à attendre que la communion arrive et puis bon, on se déplace et on prie avec notre Seigneur Jésus-Christ? Cela ne suffit pas. Il faut apprendre à se dire, mais qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que je vais offrir à notre Seigneur, à cette communion d'aujourd'hui? Est-ce que je n'y vais pas sans rien demander ou sans rien vouloir, sans vouloir remercier, sans vouloir racheter, sans vouloir glorifier? Je reprends les quatre fins. Si on y va, encore une fois, par habitude, on risque de communier. Ce sera digne, ce ne seront pas du tout des communions sacrilèges, attention, ce n'est pas ça du tout. Mais ce ne seront pas des communions fructueuses. Et on s'en rend bien compte, c'est que sitôt la messe terminée, on se retrouve sur le parvis, on discute, et puis notre vie reprend son cours habituel. Ce qui fait que notre communion n'a pas marqué une rupture, n'a pas marqué un renouveau de vie surnaturelle. À qui la faute? Non pas au sacrement, non pas à notre Seigneur Jésus-Christ, à nous. C'est nous qui avons bloqué les effets du sacrement. Encore une fois, pas par un péché, j'exclus aujourd'hui la notion de communion sacrilège. Ce n'est pas une communion indigne, c'est une communion infructueuse. Ce n'est pas la même chose. On a reçu la nourriture et elle ne nous a pas profité. Un petit peu comme certaines maladies qui empêchent à la nourriture d'être assimilée dans l'organisme. Mais c'est la même chose. Mais c'est nous qui bloquons. Ce n'est pas notre corps, bien sûr. Alors, il faut apprendre à mieux se disposer à communier. Et si on a appris à mieux se disposer à s'offrir, à s'unir à l'immolation de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacrifice de la messe, très naturellement, on aura l'habitude de mieux recevoir notre Seigneur, qui sera justement la même victime à laquelle nous nous sommes immolés. Si nous avons pensé que nous devions nous immoler avec Jésus-Christ, per ipsum et cum ipso et in ipso, eh bien nécessairement, c'est inévitable, lorsque nous recevrons Jésus victime, nous retrouverons celui auquel nous avons tout donné, nous étions prêts à tout donner, nous avons tout donné durant ce qui a précédé dans la messe, et tout spécialement au moment de la consécration. Donc, cette amélioration des dispositions préparatoires à la messe et préparatoire à la communion, à la messe, sont un moyen important et on pourrait dire indispensable pour mieux profiter du sacrifice de la messe. Et surtout, si la messe est rare, ça peut arriver que vous n'ayez pas la messe possible toutes les semaines parce que c'est à une centaine de kilomètres ou plus, etc. Alors préparez encore plus votre rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas. On dit tout ce qui est rare est cher, bien c'est vrai, une communion rare doit être encore plus chère à notre cœur, doit être encore mieux préparée, et on la prépare au moins une journée à l'avance. Certains saints, vous savez, certains saints prêtres faisaient de leur vie soit une préparation à la messe, soit une action de grâce de leur messe. Donc il y avait à peu près la moitié de la journée qui était... La messe étant célébrée le matin, donc une moitié qui était l'action de grâce d'avoir pu célébrer le sacrifice de la messe, et la deuxième partie de la journée, donc dans l'après-midi jusqu'au lendemain, la préparation au nouveau sacrifice de la messe. Mais les fidèles peuvent faire exactement la même chose, alors quand ils ont la possibilité d'avoir la messe quotidienne, et s'ils ne l'ont pas cette possibilité, d'une messe à l'autre. Alors évidemment, c'est plus dur parce qu'on a l'agitation de notre vie qui nous fait
perdre de vue qu'on a communié la veille, l'avant-veille, etc. Mais pourquoi on oublie ? Parce que certainement, notre communion n'a pas été forcément bien préparée. L'importance, et je termine par là, de l'action de grâce après la communion, bien sûr. L'action de grâce qui suit directement la communion, mais aussi, on pourrait dire, notre sortie de messe, sont importantes. Parce que c'est là que notre Seigneur est substantiellement présent avec nous. Il est aussi présent que nous, et il est encore plus présent que nous que si nous l'avions devant nous, parce qu'il est en nous. Et ces personnes que l'on rencontre sur le parvis, elles sont bien présentes devant nous et nous nous réjouissons de les retrouver. Et notre Seigneur que nous avons reçu, est-ce que nous ne l'avons pas trop vite oublié, pas trop vite évacué? Alors ça, il y a certainement des choses à corriger dans l'action de grâce. Préparation, sentiment uni à ceux de notre Seigneur le jour du Vendredi Saint, d'immolation, d'union et après dans l'action de grâce. Vous voyez, ces trois parties sont aussi importantes les unes que les autres parce qu'elles font un tout. Ce tout, c'est notre volonté d'être unis à notre Seigneur Jésus-Christ dans le lieu et le temps où il se donne le plus à nous, dans le sacrifice de la messe. Au-delà de la messe, c'est-à-dire une fois que la journée s'est écoulée et nous n'avons pas la possibilité forcément de communier tous les jours, sachons mener une vie de sacrifice. Si nous sommes allés au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous avons communié à la victime du sacrifice, nécessairement, notre vie prendra une toute autre tournure. Et notre vie sera celle du Christ. Et vous le savez très bien, en connaissant la vie de notre Seigneur, la vie de notre Seigneur est une vie sacrificielle. Il a offert tout dans sa vie pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Eh bien, si nous avons communié à cet état de notre Seigneur Jésus-Christ, même si la présence substantielle a disparu lors de un quart d'heure, 20 minutes maximum, eh bien, nous avons spirituellement les fruits, les mérites de notre Seigneur qui sont prêts à agir désormais dans notre vie. Dans notre vie jusqu'à la prochaine communion et même, on peut dire, jusqu'à la mort, parce que strictement, c'est nous qui tarissons la source des bienfaits d'une communion. Alors bien sûr, notre Seigneur, connaissant cela, a voulu donner un remède et se donner le plus facilement possible, parce qu'il sait que nous usons vite sa présence et les fruits de sa présence, malheureusement. Mais ce n'est pas de l'effet du sacrement, c'est de notre part que le problème existe. Donc, sachons vivre d'une vie de sacrifice. Et dans les difficultés, dans les épreuves, dans les souffrances, quelles qu'elles soient, morales, physiques, eh bien, sachons véritablement nous dire, mais je me suis uni à notre Seigneur Jésus-Christ victime pour la gloire de Dieu, en réparation de mes péchés, en action de grâce et en prière la plus parfaite que j'ai pu faire dans ma vie, communier et m'unir au Saint-Sacrifice de la Messe. Il est donc logique que je participe dans ma vie au prolongement de cette action très sainte du sacrifice de la messe. Alors nous allons méditer quelques instants à la chapelle sur, bien sûr, ce plus grand des dons que notre Seigneur nous ait fait. Il faut prolonger cette méditation sur la messe. Il faut, parce que vous allez à la messe, eh bien, il faut que ce soit véritablement un acte sacré. C'est l'acte le plus sacré de votre vie, puisque c'est l'acte sacré par excellence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons entendu hier soir une conférence de Mgr Lefebvre sur la liturgie. Je reviens sur ce thème pour vous parler de la liturgie en général et son rapport avec la vie intérieure, avec la vie spirituelle donc. On a un danger, on court un danger dans cette période de crise, dans cette période de trouble dans laquelle nous sommes, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est de se fabriquer une religion un petit peu à sa mesure, ou sur mesure.
On vit parfois, de façon pratique, un peu comme les protestants qui cherchent à être en lien direct avec le bon Dieu, et en s'affranchissant un peu trop facilement des règles que l'Église a données pour la vie de piété, pour le culte que nous devons à Dieu en tant que créature et en tant que créature rachetée. Alors on entend, je parle de catholiques, on entend des personnes qui vous diront ben, « Moi je m'arrange avec le bon Dieu, je me débrouille, on se connaît, et donc ben, je ne vais pas à la messe, même si j'ai la possibilité, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas la possibilité, je parle de ceux qui en ont, je ne vais pas à la messe, mais l'important, moi je prie dans mon cœur. » Ou bien « On ne se confesse jamais ». On ne se confesse jamais. On va à la messe et on ne se confesse pas. On ne reçoit pas les sacrements. Donc on a une vie finalement catholique de non. Et puis les moyens qui sont officiels, ceux que l'Église a reçus de notre Seigneur Jésus-Christ, sont finalement utilisés de façon totalement facultative, à tel point que la pratique religieuse est totalement personnelle. Alors, je disais, en période de crise, cela est encore plus flagrant parce que, évidemment, l'absence de rappel de la doctrine, l'absence de l'instruction des fidèles qui passe par le catéchisme quand on est jeune, ou catéchisme de persévérance après, ou bien sûr la prédication du dimanche, ou les conférences qui peuvent être organisées par les prêtres, tout cela est un peu parti, a disparu quasiment, hein, dans l'immense majorité des paroisses. Du coup, les fidèles se sont retrouvés dans un degré d'ignorance qui s'est transmis, et je veux dire, ils n'en sont pas coupables, en tout cas pour beaucoup. Donc, mais enfin, il faut recomprendre les choses clairement pour ce qui est de la vie liturgique. Souvenez-vous de cette parole de saint Paul que je vous cite sur la deuxième épître à Timothée, qui nous concerne tous. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais désireux d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur convoitise, détourneront l'oreille de la vérité pour la tourner du côté des fables. Et bien sûr, saint Paul parlait il y a longtemps, mais il dit « un temps viendra ». Je crois que nous pouvons appliquer bien sûr cette parole à notre époque. Donc on aboutit à une vie spirituelle et une vie chrétienne complètement bricolée, avec des dévotions personnelles et puis des règles de morale que l'on arrange. Il y a une règle et puis nous on est l'exception, comme par hasard. Alors il faut vraiment revoir ça un petit peu de près, non seulement pour nous, mais pour ceux que nous côtoyons, pour les éclairer. Parce que vous connaissez certainement des personnes comme cela qui finissent par être de bonne foi tellement qu'elles se sont convaincues elles-mêmes. Donc ça n'empêche qu'elles peuvent être dans l'erreur et dans une vie qui n'est pas celle de l'Église. Alors elles sont membres de l'Église parce qu'elles sont baptisées, mais elles ne pratiquent pas selon la religion que Dieu a donnée. Ne l'oublions pas, c'est Dieu qui nous a donné sa religion. On le voit dans l'Ancien Testament d'une façon extrêmement précise, à donner des détails, notamment si vous lisez le livre Le Lévitique dans l'Ancien Testament, hein, qui est enseigné à Moïse. Vous avez une série de détails qui sont complètement très précis et qui vont pour les habillements du prêtre, pour les sacrifices, les gestes qui doivent être faits, les purifications qui doivent être faites. On se dit, mais comment Dieu a pris le souci comme ça de donner autant de détails? Il aurait pu dire, bon, bah, arrangez-vous, je vous donne les grandes lignes, et puis... Non, Dieu a voulu donner tout, pour bien montrer que la liturgie est une affaire de Dieu qui enseigne aux hommes comment l'honorer, lui, Dieu. Et ça, c'est un principe de la liturgie que Dieu a donné. Alors, à l'Ancien Testament, c'était à Moïse, et puis après, la tribu de Lévi. Et dans le Nouveau Testament, à l'Église, bien entendu. Notre Seigneur Jésus-Christ a transmis à l'Église tous ses pouvoirs
pour prolonger son action. Son action non seulement de salut, mais aussi son action de gouvernement. Les trois grands pouvoirs de notre Seigneur Jésus-Christ sont, le premier, c'est celui d'enseigner la vérité. Ensuite, il y a le gouvernement de la société qu'est l'Église, et puis il y a bien sûr la sanctification des membres de cette Église. Notre Seigneur avait les trois, bien sûr, pouvoirs. Il a révélé, il a complété et presque achevé, je dis presque parce que les apôtres, eux aussi, ont, par leurs écrits, achevé la révélation. Et donc il a perfectionné, en tout cas, il a rendu parfaite la révélation qui était sous forme de figure la plupart du temps dans l'Ancien Testament. Donc il a révélé la vérité. Ensuite, il a gouverné, il a établi des règles, il était législateur. Notre Seigneur est législateur. Quand il reprend les tolérances qui avaient été permises au peuple juif, parce que, comme le dit notre Seigneur, ben vous étiez dur, alors du coup on vous a autorisé, par exemple, la question de la séparation des épouses ou des choses comme ça. Eh bien, mais pourtant il faut revenir à la pureté du mariage, par exemple, notre Seigneur le dit très clairement dans saint Matthieu. Et il l'indique, donc, et moi, il prend l'autre exemple, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis celui qui traite son prochain de fou, eh bien, mérite le jugement et la damnation, finalement. Alors nous avons vraiment dans ces paroles l'aspect législateur de notre Seigneur. Il gouverne et il rappelle les lois qui gouvernent son royaume. Et puis, bien sûr, notre Seigneur a sanctifié, c'est-à-dire qu'il a donné sa sainteté. Il l'a fait directement quand il était sur terre, et il le fait par son Église depuis qu'il n'est plus sur terre, c'est-à-dire par ses prêtres, par les sacrements. Les sacrements sont un prolongement de l'action humaine, de l'humanité de notre Seigneur, qui sanctifie par un recours au sensible, un sensible sanctifié, un sensible qui a reçu pouvoir par notre Seigneur Jésus-Christ de donner la grâce. Eh bien, ces trois pouvoirs de notre Seigneur, il les a donnés à l'Église. Et la liturgie, c'est-à-dire dans son aspect matériel, l'ensemble des rites, l'ensemble des règles qui sont données par l'Église pour le culte envers Dieu, ça c'est l'aspect matériel, ça se vérifie, ça se voit, on a des règles, on a des événements, des fêtes, des gestes, des actes, des lieux, tout ça, des temps qui sont liturgiques, donc qui sont réglés par l'Église. Mais tout cela sert à quoi? Est-ce que c'est pour le plaisir de mettre de l'ordre ou pour le plaisir de faire des règles et puis tout le monde obéit? Non, c'est que c'est cela qui va donner la sanctification, la vérité, l'enseignement et puis le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est l'aspect formel, c'est le but, c'est la finalité de cette liturgie. Et donc notre Seigneur les a confiés à l'Église et à des hommes choisis dans cette Église, d'où le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est l'ensemble de ces hommes qui sont choisis par vocation, c'est-à-dire par appel de Dieu. On ne se fait pas prêtre tout seul, et il faut être appelé. C'est le mystère de la vocation. Et en même temps, ces hommes sont revêtus de pouvoirs que des hommes qui ne sont pas prêtres n'ont pas. Et ce pouvoir les met comme médiateurs, c'est-à-dire intermédiaires, entre eh bien, Jésus-Christ, Dieu, et les fidèles qui vont recevoir et qui vont en même temps transmettre à ce prêtre. Eh bien, il y aura une espèce de va-et-vient entre Dieu et les fidèles, et les prêtres sont les intermédiaires, au même titre que Jésus-Christ est médiateur entre Dieu et les hommes. C'est, je vous rappelle, le titre de l'encyclique de Pie XII. Notre Seigneur Jésus-Christ a donc tout légué à son Église, et c'est son Église qui a pour charge, c'est sa fonction, de rétablir, enfin de mettre en œuvre ce culte qui a été rétabli par notre Seigneur. Nous l'avons vu, je le redis très brièvement, le péché originel a tout brisé, a brisé tout lien entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ, offrant sa vie pour les hommes, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, vient restaurer ce lien entre Dieu et les hommes. Et il ne restaure pas simplement un lien, simplement d'amitié, il restaure une vie qui est la vie d'un ensemble de créatures qui vont rendre à leur créateur et à leur sauveur eh bien, ce qui lui est dû, c'est-à-dire un culte, un honneur, un hommage. Et ça s'appelle une religion, cela. La religion, c'est cet ensemble des actes, des prières, des sacrifices, de la dévotion, de l'adoration, qui manifeste de la part d'une créature sa totale dépendance et sa reconnaissance au Dieu à qui elle s'adresse. Alors évidemment, je fais ça comme s'il y avait plusieurs religions possibles. Il n'y a qu'une seule religion possible, celle que Dieu a révélée. Toutes les autres religions, elles ont ce nom, mais ce ne sont pas des religions. Elles relient l'homme qui les a inventées à lui-même. Il faut bien le comprendre. Il n'y a pas de connaissance du vrai Dieu en dehors de Dieu. C'est évident. Enfin, c'est évident. Malheureusement, c'est évident, il n'y aurait pas de fausse religion. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la religion ne peut pas être une affaire humaine. À l'origine, c'est une affaire humaine au sens où il y a des hommes qui pratiquent cette religion, bien entendu. Mais ce n'est pas une affaire humaine quant à son origine, quant à l'origine de la religion. Seul Dieu pouvait dire à l'homme comment il était, qui il était d'abord, comment il voulait être honoré. Ça tombe sous le sens si on réfléchit bien. Alors évidemment, les fausses religions, là-dedans, se compliquent la vie, inventent des tas de choses, et puis c'est l'homme qui s'invente des dieux. Alors notre Seigneur, donc, donne tout à l'Église, et l'Église va faire vivre cette religion restaurée en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ne le fait pas sans lui. C'est pas l'Église toute seule qui décide, maintenant j'ai tous les pouvoirs, donc je fais ce que je veux. Attention. On ne change pas la religion révélée, c'est impossible. Et là, puisque nous sommes dans la liturgie, faisons le lien, bien sûr, avec toutes ces réformes. L'Église a évolué sur beaucoup de choses, c'est évident. Mais si on examine ces évolutions, on les voit, elles sont toutes matérielles ou disciplinaires, c'est-à-dire qu'il y a des grands principes qui sont donnés par notre Seigneur Jésus-Christ, et puis, en soi, on peut les atténuer, je pense à la pénitence, par exemple. La discipline sur la pénitence. Vous savez sans doute que les premiers siècles, jusque surtout avec les périodes de persécution, les pénitences sacramentelles étaient assez lourdes, même parfois très lourdes, enfin, par rapport à ce que nous donnons maintenant. Ça pouvait être des années de choses à faire, ça peut être un pèlerinage très loin, ou juste comme ça. Bon, pour des fautes qui étaient, j'allais dire, pas plus graves que celles qui sont commises maintenant, en soi. Et le péché, l'homme est toujours pécheur de la même façon. Il y a toujours que 7 péchés capitaux. Hein. Donc, il y en avait déjà 7 dans les premiers siècles de l'Église. Donc, on voit que la discipline a été largement adoucie. Les pénitences aussi, concernant, par exemple, le jeûne eucharistique. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, le jeûne eucharistique commençait à minuit du jour suivant. Donc, on avait l'obligation de ne rien manger jusqu'à la communion, quelle que soit l'heure, etc. Bon, ce sont des règles qui n'ont pas été instituées par notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est l'Église qui a réfléchi, qui a, constitué ces règles avec sagesse et avec l'aide du Saint-Esprit, bien entendu. Et puis, pour des raisons de société ou pour des raisons, en l'occurrence pour le jeûne eucharistique, c'est tout simplement la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui a favorisé ce changement, parce qu'il est évident que c'était Pie XII qui était pape, et il s'est dit, comment peut-on exiger déjà des gens qui cherchent de la nourriture pendant la guerre, en plus de se priver des minuits, du peu qu'elles auraient trouvé. Donc c'était une décision très sage. Et puis, sachez-le, vous le savez certainement, que les privations ne sont pas arrêtées en 1945. Elles ont continué en France, notamment, au moins 3-4 ans. Hein. Donc, c'était sage. Le paradoxe, c'est que les choses ont évolué dans le même sens avec une société de surabondance. Alors là, est-ce que c'était sage? C'est une autre question. Mais de fait, l'Église a droit de changer ces choses-là, c'est dans ses pouvoirs, mais il faut que ce soit fait sagement. Évolution matérielle, bien entendu. Vous avez parfois, pas ici, ici à l'hôtel principal, mais pas dans les hôtels, des cierges qui ne sont pas forcément des gros blocs de cire. Bon, est-ce que c'est un crime? Non, la règle veut que les cierges d'hôtel soient en partie en cire, donc maintenant il y a des produits avec mélange de cire, etc. Bon. Est-ce qu'on va garder des bougies quand l'électricité existe? Vous voyez, est-ce qu'on va éclairer par une petite bougie tous les 5 mètres la nef des fidèles? C'est évident que ces choses-là ont évolué, c'est matériel, hein. Il n'y a aucun problème, l'Église évolue dans ces choses-là. Mais pour ce qui est des vérités de foi, pour ce qui est de la vérité et de la sanctification, il est impossible d'imaginer un changement, puisque ça sous-entendrait que Dieu aurait dit « à partir de maintenant, je change ». Et ce que vous avez cru jusqu'à présent, c'était bien, mais maintenant vous devez croire autre chose, pour vous sauver, pour me connaître, pour m'aimer, pour me servir. C'est absurde, c'est absurde. Donc tout changement de fond, tout changement de doctrine, tout changement qui touche à la sanctification ne peut pas exister. Ne peut pas exister. Parce que par rapport à la vérité, c'est la question de l'évolution, de la compréhension des vérités de foi. Ça, ça a existé, ça existe toujours. Il est toujours, bien sûr, préférable d'approfondir ce que Dieu a révélé. Mais ça n'est pas un changement. C'est une extraction plus riche d'un gisement que nous ne connaissions qu'en partie. Alors d'où les dogmes qui sont proclamés au fur et à mesure de l'histoire de l'Église. C'est pas qu'on a inventé l'Assomption en 1950. Tout le monde y croyait. Tout le monde y croyait. Dès les premiers siècles, il y a une croyance manifeste et qui se manifeste par la liturgie, justement. Les fêtes de la Dormition de la Sainte Vierge, etc. Donc ce n'est pas une invention nouvelle, ce sont des développements qui, comme le chêne qui sort du gland, c'est toujours l'idée de ce qui est contenu, qui est révélé, qui se développe, mais pas de changement, pas de contradiction. Alors voilà ce que notre Seigneur a donné, voilà ce que l'Église va entretenir, et voilà ce qu'elle va nous donner dans sa liturgie. Et la liturgie... que nous connaissons bien sous ses formes les plus importantes, comme la messe, bien sûr, qui est le cœur de la liturgie, les sacrements, la prière publique de l'Église, qu'on connaît moins, mais que, bien sûr, toutes les personnes engagées dans la vie religieuse connaissent, puisque c'est, par exemple, le bréviaire pour les prêtres, c'est la prière publique de l'Église. Dans la liturgie, il y a l'idée du culte public que l'Église rend à Dieu. L'Église, en tant que société, rend à Dieu. C'est ça qui fait que la religion que Dieu a révélée est appliquée, est vécue. Et cela se fait de façon publique, c'est-à-dire, on oppose public à privé, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que le culte public qui est rendu à Dieu est le culte d'une société tout entière. Et ça, c'est très très important de comprendre que nous sommes membres d'une société et que c'est la société tout entière qui vit cette religion à Dieu. Cela n'exclut pas que l'individu ait aussi, bien sûr, une vertu et vive de sa vertu de religion. Bien sûr, il y a les deux. Mais la liturgie ne concerne pas cette vie privée, cette prière privée qu'on peut avoir dans notre cœur et qu'on doit avoir dans notre cœur. Toute la retraite vous l'a expliqué. Mais il ne faut pas oublier que la liturgie concerne donc cette religion vécue ensemble, en tant que société. Et ça, c'est très important parce que cela nous rappelle que nous sommes membres d'une société et que notre salut passe par la société dans laquelle nous sommes. Je parle bien sûr de la société surnaturelle, l'Église. De même, pour ne pas déprécier outre mesure la société naturelle, de même que au niveau naturel, au niveau temporel, nous assurons notre bien-vivre grâce à notre intégration à la société temporelle, à savoir l'État, la société civile. Il y a une analogie, c'est-à-dire une ressemblance de rapport entre cette vie sociale civile, être dans tel pays, dans telle communauté, et puis cette vie surnaturelle dans l'Église. Et bien de même qu'on ne peut pas vivre tout seul, même s'il y a des cas, des exceptions, des gens qui vivent en parfaite autarcie sur une île ou dans une forêt, mais ça n'est pas le mode de vie ordinaire. Tout le monde ne peut pas faire ça. Ça montre bien que l'homme est social, et parce que social, assure sa finalité, ce pourquoi il est fait, par la société. Eh bien, il en est de même au niveau surnaturel. Et puisqu'il en est de même au niveau surnaturel, nous devons avoir avant tout un culte public, donc liturgique, et en parallèle de notre culte personnel qui nous regarde notre cœur vis-à-vis de Dieu. Mais je reviens à ce que je disais tout au début, il est inconcevable de vouloir honorer Dieu en dehors de ce culte public, donc en dehors de la vie liturgique de l'Église. Et je repense à ces personnes qui se disent « Moi, je me débrouille toute seule, je suis en communication avec Dieu et on se débrouille, on se connaît bien. » Donc, c'est impossible. Et c'est contre nature, c'est pas de la nature, c'est de la grâce, mais enfin, vous comprenez l'expression, c'est contraire à la vie intérieure, c'est contraire à la vie surnaturelle que de vouloir vivre hors de la vie liturgique. Donc hors de la messe, donc hors des sacrements, donc hors de la prière publique. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes tenu à la prière publique, au bréviaire, hein, c'est pas cela, mais sachez qu'il y a cette grande prière de l'Église qui est assurée par un certain nombre de personnes, des prêtres, les diacres, les sous-diacres, c'est à partir du sous-diaconat que nous nous engageons définitivement à réciter le bréviaire tous les jours. Et puis, ça peut être un engagement religieux, qui est dans certains ordres, ça fait partie de la vie religieuse de l'ordre, ou après, ça peut être un engagement, on pourrait dire secondaire, qui prend l'effet comme d'un vœu, qui constitue un vœu, mais qui n'est pas lié à l'état propre de la personne qui le fait. Mais il y a cette prière publique de l'Église, c'est-à-dire des hommes choisis par Dieu, qui assure ce ministère de la prière, de ce qu'on appelle du sacrifice de louange, et qui est en parallèle avec le sacrifice eucharistique, la messe. Pie XII dit dans son encyclique Mediator Dei, « Le devoir fondamental de l'homme est certainement celui d'orienter vers Dieu sa personne et sa vie. » Nous devons donc, nous savons, nous retournons à Dieu par Jésus-Christ, et qu'est-ce qui nous garantit que nous nous tournons vers Dieu, que nous accomplissons ce retour par Jésus-Christ vers Dieu? Eh bien, en acceptant cet enseignement qu'il nous a révélé, en observant ses commandements, gouvernements, et en faisant que tout notre agir sera volontairement tourné vers Dieu. Et là, on a besoin de la sanctification. Toujours ces trois éléments, vérité enseignée, gouvernement, et donc par les commandements, la discipline on pourrait dire, et puis sanctification, c'est un mot à prendre au sens fort, c'est-à-dire transformation en saint. Nous devenons saints par la sanctification, c'est-à-dire nous devenons semblables en partie, par participation, à la sainteté de Jésus-Christ. Et bien cela se fait dans la liturgie. Et le paradoxe qu'on aurait pu souligner au départ en disant « la liturgie, c'est une affaire publique, vous nous avez dit, et ma vie intérieure, par définition, c'est une affaire privée », eh bien, on voit que le lien est facile à faire maintenant. C'était bien dans cette participation à la vie liturgique que nous garantissons notre vie intérieure. Notre vie intérieure prend sa source dans la liturgie, nous nourrit, et en même temps, notre participation, notre sainteté personnelle va, on pourrait dire par un effet de réciprocité, va nourrir la vie liturgique, en tout cas va la compléter, va l'enrichir, parce que nous vivons en société. N'oubliez pas le dogme de la communion des saints, cette participation et cette réception commune des bienfaits, des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous apportons les uns aux autres nous donne droit à recevoir des uns des autres. C'est comme un grand réservoir auquel nous apportons une petite part d'eau Et puis, en échange, on a le droit d'en prendre tout ce qu'il y a. C'est un petit peu ça. Et tout chacun participe. Et tout cela étant puisé en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'aspect public de la vie liturgique, son aspect réglé par l'Église, par les hommes d'Église, et non pas par le premier venu, d'où encore un aspect anti-liturgique, je reviens sur ces questions-là, mais de l'invention, de la créativité des nouvelles messes, par exemple. C'est anti-liturgique, c'est rien que même de dire, tiens, on va faire des textes d'une messe, on va fêter tel événement, donc on va demander à Madame Intel de nous assurer la messe. C'est anti-liturgique par définition. La liturgie étant un culte qui vient de Dieu. Ça ne peut pas venir de Madame Intel. Donc on a bien, dans la liturgie traditionnelle, le respect de cette religion qui vient de Dieu. Alors ce lien qu'il y a entre notre vie intérieure et la vie liturgique de l'Église, c'est-à-dire la vie de ce culte que l'Église rend en tant que société à Dieu, eh bien, il faut l'examiner avec un petit peu plus de détails pour en profiter. Cette sainteté de chacun qui va contribuer en même temps à l'enrichissement de la vie de l'Église, et la vie de l'Église qui contribue à ma sainteté personnelle, puisque bien sûr je bénéficie de la liturgie, eh bien il faut la retrouver là où elle est, c'est-à-dire, on pourrait dire, presque tout le temps. Notre vie est dirigée, est gouvernée, je le disais tout à l'heure, par la liturgie. Ça s'appelle le temps liturgique. Le temps liturgique, ce sont, Mgr Lefebvre en a parlé en citant Pius Parche, donc un liturgiste du début du XXe siècle, a rappelé qu'il y avait ces deux grands sommets, le sommet de Noël et le sommet de Pâques. Donc je n'y reviens pas, vous avez eu cette conférence. Eh bien, ça nous inclut dans cette réception de la grâce, de chaque mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, à chaque fête, nous redonne des grâces spéciales correspondant à ces mystères. La vie liturgique, ce n'est pas simplement un calendrier. Ce n'est pas ça, il ne faut pas le voir sous cet aspect de calendrier. Il faut le voir sous l'aspect de Jésus-Christ répandant par son Église des grâces qui ont été méritées lors de sa vie sur terre. C'est tout autre chose qu'un calendrier. Voyez, et même si c'est cyclique, même si ça revient tous les ans, c'est tous les ans que notre Seigneur nous propose de vivre de ses grâces. Alors ce sera le mystère de Noël, donc plutôt la pauvreté, la dépendance envers Dieu, etc. Enfin, je ne vais pas commencer ce commentaire sur toute l'année liturgique, ce sera trop long. Mais chaque mystère de la vie de notre Seigneur nous apporte une grâce spéciale, tout en nous apportant des grâces, on pourrait dire, générales, et nous devons y correspondre. Et notre vie liturgique, notre vie intérieure par rapport à cette vie liturgique, ce sera d'y correspondre, de nous préparer justement à telle fête qui nous apporte de si grandes richesses. Alors, Mgr Lefebvre le rappelait, il y a des temps de préparation, parce que justement l'Église est maîtresse d'enseignement, elle sait par sa pédagogie, on pourrait dire, préparer les âmes. Alors c'est toutes les magnifiques préparations de l'Avent et du Carême, qui nous font dire lentement mais sûrement à quelle grâce nous nous préparons. Mort au péché, résurrection en la vie de notre Seigneur, etc. etc. On pourrait bien sûr élargir ces considérations. Donc l'année liturgique, il faut apprendre à vivre liturgiquement. Et ça, c'est un point qui peut être amélioré chez chacun de vous. C'est toujours, on ne vit jamais assez. Et ce qui se produit au niveau de l'année peut se produire aussi en modèle réduit, on pourrait dire, au niveau d'une semaine. Nous avons, on pourrait dire, le temps fort du vendredi dans notre semaine, c'est-à-dire le souvenir de la passion, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons bien entendu, j'aurais dû commencer par lui, le dimanche. Le dimanche, jour de la résurrection, premier jour de la semaine, c'est le premier jour de la semaine, qui donc ouvre une semaine, ouvre une période qui nous rappelle la semaine de la création et qui commence par la recréation. La résurrection, c'est la recréation de l'homme qui est mort. Et donc nous avons dans une semaine, c'est donc beaucoup plus facile à suivre et à gérer dans notre vie, eh bien, nous avons un temps liturgique qui peut être suivi, qui peut être source de pénitence en union à la mort de notre Seigneur le vendredi, de réjouissance le dimanche en union avec la résurrection de notre Seigneur, et puis bien sûr cette sanctification du dimanche qui est exigée par l'Église et qui nous indique que tout est à Dieu le dimanche. Alors bien sûr, nous devons sanctifier le dimanche. Je rappelle brièvement ce qu'est sanctifier le dimanche. C'est par la volonté de l'Église assister à la messe dans la mesure où on le peut. Pourquoi ? Parce que nous offrons l'acte le plus excellent qu'est le Saint-Sacrifice de la messe en culte d'adoration et de louange, d'action de grâce et de et si nous ne pouvons pas aller à la messe, ça peut arriver, soit parce qu'il n'y en a pas du tout, soit parce qu'elle est trop loin, soit parce qu'on est malade, ou soit parce que des enfants, par exemple, pour les mères de famille, ça arrive assez souvent, les enfants sont malades, il ne s'agit pas de les laisser dans la maison et de partir à la messe. Donc il y a un devoir de charité qui passe avant non pas avant la sanctification du dimanche, j'y reviens tout de suite, mais avant l'acte impéré par l'Église de cette sanctification du dimanche. Donc je reviens sur la sanctification du dimanche. Il peut y avoir, donc c'est d'abord la messe, d'où ce que je vous disais l'autre jour, ce devoir de choisir ces lieux de vie en fonction des lieux de messe, dans la mesure du possible. Mais si l'on ne peut pas, eh bien on est toujours tenu, si on ne peut pas aller à la messe, on est toujours tenu à la sanctification du dimanche. Alors comment faire ? Bien, le conseil vous a certainement déjà été donné. L'idéal, mais ce n'est pas une règle stricte, c'est de lire sa messe chez soi ou dans une église vide, dans un lieu plus digne, et puis de dire son chapelet, d'avoir une lecture spirituelle, de prier à peu près le temps de sanctifier notre dimanche de la même durée, même s'il ne faut pas être à la minute près dans ces choses-là, d'une messe. Alors, est-ce que c'est une messe basse? Est-ce que c'est une messe solennelle? Est-ce que c'est une messe pontificale? On dit, pour simplifier, une messe basse avec sermon. Donc, ça vous fait trois quarts d'heure, quoi, ou une demi-heure. Alors, ça dépendra peut-être des prêtres qui vous diront, non, une demi-heure suffit, d'autres trois quarts d'heure. Bon, ne jouons pas sur ces quantités. Marquons surtout l'esprit dans lequel nous devons et nous voulons sanctifier notre dimanche. Si on sanctifie notre dimanche au rabais, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas envie de le sanctifier. Et de même qu'il y a des gens qui vont à la messe sans honorer le commandement, parce qu'ils y assistent purement passivement et qu'ils ne font absolument aucune attention à ce qui s'y passe, donc ils étaient présents physiquement, mais ils n'ont pas sanctifié leur dimanche. De même, on pourrait se dire, je sanctifie mon dimanche, allez hop, je fais mes 29 minutes 30 secondes parce que je ne suis pas scrupuleuse. Donc, vous voyez, c'est l'esprit dans lequel on le fait. Dieu nous a demandé de le sanctifier dans le dimanche et tout le dimanche, mais on résume à une demi-heure, trois quarts d'heure, pour marquer et puis savoir qu'on peut faire d'autres activités qui ne sont pas serviles. Je rappelle la définition d'une activité servile, c'est celle qui engage essentiellement notre corps. Donc, on peut écrire, on peut... si c'est une activité plus intellectuelle, même si ultimement elle nous rapporte de l'argent, et elle peut être faite, parce que c'est pas une activité servile, ça vient de servus, l'esclave, donc des activités qui ordinairement étaient réservées aux serviteurs et aux servantes, si vous voulez. Hein, donc toutes les tâches qui mettent davantage le corps que l'intelligence en action. Voilà en gros ce qu'est une œuvre servile. Tout en sachant qu'il peut y avoir des exceptions autorisées, sauver une récolte en temps d'orage ou des choses comme ça. Bon. Demandez de toute façon pour ces questions-là l'autorisation, c'est l'habitude de l'Église, à votre, au minimum votre confesseur ou normalement dans certains cas votre curé, enfin l'équivalent, pour demander l'autorisation d'exception à ces travaux serviles. Gardons l'esprit de l'Église. L'année liturgique. Bien sûr, et puis la sanctification dimanche, j'en ai parlé, la méditation des textes liturgiques. Alors j'en ai parlé un petit peu avec la messe, mais je vous conseille bien entendu de méditer les évangiles du dimanche ou de des fêtes de la semaine. Je vous l'ai certainement dit, ou en tout cas, on cherche des sujets de méditation, l'évangile du jour tout simplement. Ça peut être un moyen facile de trouver un texte. Les prières de la messe, je vous en ai parlé. Et surtout, chercher les grands moyens donnés par notre Seigneur Jésus-Christ à l'Église. Donc les sacrements, puisque ce sont les plus grands moyens que notre Seigneur ait donnés à son Église. Vivons des sacrements. Voilà la source de notre vie intérieure. Alors, évidemment, il y en a qu'on peut recevoir qu'une seule fois, donc l'affaire est réglée. Mais il y a le sacrement de pénitence et le sacrement de l'Eucharistie, bien sûr, qui doivent être reçus tout spécialement. Sans abus au sens d'inattention, sans routine, bien entendu. Mais là encore, n'hésitons pas, notre Seigneur a donné facilement l'accès à son cœur, à sa miséricorde. Ne négligeons pas. La confession n'est pas simplement pour faire pardonner nos grosses fautes. N'attendons pas d'avoir commis un péché grave pour aller se confesser. Et du coup, attendre peut-être, Dieu merci, 6 mois, 1 an ou plus. C'est une erreur sur la vie sacramentelle. Les sacrements, le sacrement de pénitence, bien sûr, a pour rôle d'effacer les péchés graves, etc. Mais il a aussi pour rôle, son nom s'appelle sacrement de pénitence, de donner et d'accroître la vertu de pénitence. Quand vous recevez l'absolution, quand vous recevez le sacrement de pénitence, vous n'avez pas simplement reçu le pardon de notre Seigneur. Vous l'avez reçu, certes, et c'est l'élément essentiel, on est bien d'accord, mais vous avez reçu aussi un accroissement de la vertu de pénitence, c'est-à-dire cette vertu qui vous permet de vous retrancher du créé, d'avoir une plus grande facilité de vous éloigner du créé. Et ça n'est pas rien, puisqu'on est justement trop immergé dans le créé, et c'est à cause de cela que nous nous éloignons de Dieu. Voilà un autre effet du sacrement de pénitence. D'où, et je pense que vous en avez pris la résolution, la nécessité de se confesser régulièrement, et non pas quand la catastrophe est arrivée simplement. Hein ? Le sacrement de l'Eucharistie, bien sûr, j'en ai déjà parlé sur la messe, donc j'insiste surtout sur le sacrement de pénitence. Si vous n'aviez pas été confirmé, ce serait l'occasion de le faire, enfin de vous préparer un jour et de le demander, ce sacrement de confirmation, pour que vous ayez vraiment une bonne préparation à ce sacrement qui vous donnera cette force du Saint-Esprit. Et je termine, parce que l'heure tourne, avec un autre sacrement qu'il faut aussi bien connaître, qui est le sacrement de l'extrême onction. Alors bien sûr, cela ne concerne des personnes en danger de mort. Donc ce n'est pas un sacrement qu'on reçoit comme ça parce qu'on a fait une bonne retraite, qu'on se dit « je vais vivre le maximum de sacrements possible ». Comme l'ordre s'est interdit, le mariage s'est fait ou c'est à faire, bon, on ne peut pas tous les recevoir. Donc, allez hop, je vais demander l'extrême onction. L'extrême onction, en cas de danger de mort, un danger qui peut être au sens large, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre l'extrémité de la mort, du danger, bien sûr. Donc toute personne qui éventuellement se fait opérer d'une opération dangereuse, grave, ça peut arriver, quel que soit son âge, peut demander l'extrême onction. Et surtout, s'habituer pour vous-même, quand vous serez peut-être au bord de la mort un jour, ça arrivera évidemment, d'avoir ce recours au prêtre pour obtenir non seulement une bonne mort, mais ce n'est pas uniquement cela. N'oublions pas que l'extrême onction est un sacrement de guérison, normalement. Alors, ça n'est pas l'effet premier. L'effet premier, c'est de perfectionner la pénitence, donc l'absolution des péchés, et d'apaiser l'âme dans le danger de la mort. Mais n'oublions pas que c'est aussi un effet sur le corps. Et tous les prêtres que vous pouvez connaître et qui ont donné le sacrement de l'extrême onction l'ont vu, et vous-même, vous l'avez peut-être vu dans les membres de la famille, cette paix physique qui est bien sûr issue d'une paix intérieure qui est donnée par le sacrement de l'extrême onction. Et alors, l'autre aspect que je voulais indiquer, c'est de conseiller cette extrême onction à ceux qui n'y pensent pas et de les amener à accepter cette extrême onction. Combien de prêtres nous sommes à avoir du mal à aller devant vers la personne qui en a besoin parce que soit des membres de la famille diront ben non, si elle voit le prêtre, surtout en soutane, c'est effrayant. Donc elle va croire qu'elle va mourir, qu'on vient l'enterrer, etc. Bon, ces choses-là, malheureusement, existent. Vous les avez certainement entendues. et c'est un obstacle à la vie sacramentelle de la fin de la vie. C'est au moment de la fin de la vie qu'on en a besoin, en tout cas dans le danger de mort. Eh bien, ces personnes se privent ou sont privées par des proches mal éclairés ou mal intentionnés de cette vie sacramentelle ultime que notre Seigneur a voulu donner. Voilà, je m'arrête là, et puisque nous sommes donc à cette vie intérieure et vie liturgique, nous allons au salut du Saint-Sacrement, qui est bien sûr un des moyens d'honorer notre Seigneur dans son sacrement de l'Eucharistie, avec notamment cette bénédiction finale que le prêtre donne, et qui est une bénédiction qui donne de nombreuses grâces.